C'est arrivé demain. Et déjà sur les murs de Santiago, des panneaux électoraux que semblent avoir peints des émules pas tellement naïfs de Fernand Léger exaltent la victoire du docteur Salvador Allende, candidat de Front Populaire, un Frente Popular que l'on appelle ici Unité Populaire. Cette victoire que les communistes et les socialistes français n'ont plus retrouvée depuis 1936, que leurs homologues italiens, pourtant plus forts, n'ont jamais remportée depuis la Libération, voilà qu'au bout du monde, entre les Andes et le Pacifique, et en Amérique latine de surcroît, communistes et socialistes chiliens l'obtiennent comme ça, à coup non pas de mitraillettes, mais de bulletins de vote. Le 4 septembre, le docteur Salvador Allende avait dévancé M. Tomich, démocrate chrétien qui prêchait un peu dans le désert, et Don Jorge, Don Jorge Alessandri, conservateur. Élection trahison ? Jusqu'à présent, non.
Campagne, je me souviens qu'on avait tous énormément travaillé, mais dans mon souvenir.
Ana Maria Palacios, lycéenne à La Serena, alors militante au Parti Socialiste. Elle se souvient ici de la campagne d'unité populaire en cette année 1970.
Et on croyait pas qu'il allait passer. C'était, en tout cas, j'étais très surprise, en tout cas la jeunesse socialiste. Très, très heureuse et surpris. On ne s'attendait vraiment pas, je crois. Je pensais que de toute façon, il n'allait pas nous laisser gouverner, qu'il allait avoir quelque chose. Et on avait peur de la droite, on avait peur. Oui, elle était forte, nous pensions qu'il y avait donc une alliance avec les Nord-Américains. Et en tout cas, nous les croyons fermement. Donc on se disait que de toute façon, ils allaient intervenir pour ne pas permettre que ces gouvernements fraîchement élus puissent gouverner. Et je pense qu'avant tout, c'était la surprise.
Sì, c'è vero, io sono completamente d'accordo con Anna Maria, è un momento là, e forse rappelé che aveva la troisième fois che aveva la tentativa di elezione per arrivare al potere a Allende e che si è chiuso.
Hector Aracena, simpatisant du MIR, alors étudiant à l'Université de Santiago lors de l'élection de Salvador Allende.
Et c'est vrai qu'il y avait malheureusement pas une confiance énorme. En plus, la politique de droite, c'est toujours la menace, en disant par exemple avec les femmes, et votre fils sera envoyé à l'Union soviétique, les tanks vont arriver au Chili, des choses comme par exemple. Et aujourd'hui, on rigole parce que je me pose la question, finalement, ce n'était pas les tanks soviétiques qui sont arrivés. Vous savez d'où viennent les tanks, finalement. Ce sont des anecdotes qu'aujourd'hui, on peut faire une analyse plus tranquille, mais à ce moment-là, c'était très dur, sa campagne, très dur. On savait que si Allende arrivait au pouvoir, c'était un travail très, très, très difficile. Par contre, il y avait beaucoup de gens aussi qui n'avaient pas une éducation, on peut dire, politique, que ce n'est pas facile non plus, ce n'est pas une critique. Les gens s'imaginaient qu'une fois, si on arrive au pouvoir, presque, il ne faut pas travailler. On est déjà au pouvoir. Et ça, c'est le plus grave. Dans tout le monde entier, c'est le plus grave qu'on peut croire qu'on arrive et c'est fini.
« est-ce possible, secondo
comment est-il possible, selon vous, de concilier ce qui est si difficile, le socialisme et la liberté? Je parle de ces libertés publiques, parlementaires, constitutionnelles chiliennes. Et je vous demande si vous pensez qu'il est possible de concilier ces libertés avec une orientation socialiste de la nation chilienne.
Salvador Allende, après son élection en 1970, interviewé par Eugène Mannoni pour la télévision française.
Je vais vous répondre. Évidemment, oui. Parce que nous avons dit à la conscience du Chili, et avant même que les démocrates chrétiens nous en fassent la demande, nous avons dit que nous allons faire un gouvernement de plusieurs partis. Et je voudrais vous faire noter que la majorité des partis qui forment partie de l'unité populaire ne sont ni socialistes ni marxistes. Je voudrais ajouter qu'il y a un parti comme le Parti Radical qui a 110 ans de vie publique au Chili. Et enfin, je voudrais vous rappeler qu'en 1938, il y a eu dans ce pays un gouvernement de Front Populaire. Et dans ce Front Populaire, il y avait des radicaux, des démocrates, des socialistes, des communistes, et qu'on a préservé toutes les libertés. Maintenant, je le reconnais, ça va être très difficile, plus difficile pour nous, parce que nous devons affronter une situation qui a revêtu une ampleur que nous n'avions pas imaginée. Nous n'avions pas imaginé que ces gens lui donneraient cette ampleur. Et c'est intéressant qu'on le sache en France. La gauche, les ouvriers, les paysans, les employés, les techniciens, les intellectuels ont triomphé au Chili. Et la nuit de la victoire, il y avait 200 000 personnes dans la rue. Il n'y a pas eu une vitre de cassée, pas une automobile d'abîmée, pas un seul de nos adversaires qui ait pu dire qu'on l'ait offensé, même en parole. Mais en revanche, les secteurs battus, l'extrême droite, a essayé de conspirer, a fait tout ce sabotage économique, et maintenant elle a des mercenaires pour placer des bombes. Alors où est la démocratie? Nous, nous allons la faire, la démocratie. Parce que le peuple va y participer. Et pas une minorité.
Cette manifestation dans la joie et dans la discipline, sans débordement. Et nous savions qu'il y avait danger de se faire voler la victoire. Et on était heureux, on était, oui, ça s'est passé et dans les calmes. On était attentifs, parce, oui, on était surpris aussi par rapport à ces calmes-là. C'est vrai qu'on s'attendait une riposte violente. Et nous avons défilé. Et ce jour de la victoire, à Yapel, je me rappelle, c'était tous, quoi, les mamans, les bébés, les vieux, les jeunes, on sautait parce qu'il fait voilà, donc avec nos saltes momies, celui qui ne saute pas, c'est une momie. Mais momies, par rapport, on appelait momies les gens de droite par rapport à leur rigidité. Hein, c'était des ultra rigides, c'était des gens qui étaient contre les changements. Donc pour nous, c'était des momies. Donc là, pendant des heures, on a sauté là en avançant, on était, voilà, avec nos drapeaux respectifs. Là, on était c'était vraiment l'unité. C'était vraiment ce sentiment d'unité, ce sentiment de les gens pleuraient, les gens, comment dire, c'était extraordinaire, quoi. C'était magique. Je pense que les rêves qu'après on devait vivre pendant 3 ans, et il a commencé à ce moment-là, quoi. Après ça, on a continué à rêver tous les jours, voilà, c'était intensif, c'était fort, c'était c'était beau, c'était unitaire, c'était magique, c'était magique, c'était, voilà, c'était une utopie qui est devenue réalité.
Le peuple entrera peut-être avec le docteur Allende au palais présidentiel de la Moneda, mais d'autres aspirent, eux, à entrer en Argentine. À y faire entrer du moins leurs dollars. À la frontière, au cœur des Andes, on se bouscule. Et pour certains, la liberté d'entreprise du moins, est au bout d'un tunnel.
Oui, ce que je me rappelle, je pense que ce qui m'a plus marqué à cette époque, parce que nous l'avons vécu très, très fortement, c'était l'histoire des 2000 litres de lait et des biscuits qui vont avec pour tous les étudiants. C'était pour tous les enfants du Chili. Et nous, moi qui j'étais en dernière année du lycée, donc ce qui équivaut ici à la terminale, aussi on avait ces 2000 litres de lait. Et donc à 10h du matin et à 4h, avec des biscuits. Et d'un seul coup, et comment dire, tout le monde prenait ça. C'était une espèce de moment de communion. Et moi que j'avais jamais vu du lait, presque très peu dans ma vie, parce que c'est pas quelque chose que j'aimais. J'étais d'un seul coup, c'est là, je pense que c'est la première fois que j'ai pris plaisir à voir ce lait-là, qu'on partageait dans des gamelles avec tous les autres. Et donc tous les enfants du Chili, tous les enfants, tous les étudiants, les scolaires du Chili avaient donc ce lait-là, avaient des biscuits qui étaient durs, mais on trouvait ça super. Dans un autre contexte, on n'aurait pas mangé ça, mais là, c'était vraiment cette notion de partage. Là, on le prenait avec plaisir. Et je pense que c'est le meilleur lait que j'ai vu dans ma vie. Pourtant, j'imagine que c'était du lait en poudre.
Comme on dit, on avait compris, par exemple, ce demi-litre de lait que nous a commencé à donner. Déjà quand on a commencé à faire un travail indirectement dans la population, dans le quartier bidonville, pour dire comme ça, que les gens commencent à être un peu ensemble. Même il y avait des gens qui avaient une situation difficile, qui au début disaient non, je ne vois pas, c'est laid, parce que c'est laid, ça, c'est l'autre. Lentement, ils commençaient à rentrer dans ce milieu, ils disaient oui, il est pas mal, que ça, que l'autre. Parce que la droite, à la même époque, a fait une campagne, bien sûr, qui est une laid presque de laid pour les cochons. Et je m'excuse pour les cochons. Alors, pour nous, ça commençait, comme je disais tout à l'heure, un travail d'équipe, un travail d'éducation, je peux dire, je ne sais pas si les mots. Bien sûr, après autres mesures, comme disait Anna Maria, la nationalisation du cuivre, comme avant ça s'était appelé la chilénisation avec Frey. Après, c'est la nationalisation du cuivre. Je sais très bien qu'à l'époque, comme je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas ce que signifie pour nous la nationalisation de cuivre. Parce que nous on est, on croit que c'est comme ça et c'est comme ça. Mais après, quand on commence à comprendre et à prendre conscience, on voit la valeur, on voit que nous sommes aussi des seres humains et qu'on a le droit d'avoir une liberté comme tout le monde. Quoi. Que de participer à sa richesse d'un pays. Frey, pour ne pas rester en arrière, disait oui, on va faire la chinelisation. Ça veut dire que c'est un premier pas, si vous voulez. Mais Allende a dit non, on ne veut pas la chinelisation, on veut la nationalisation complète. Ça veut dire que le cuivre sera de Chili et va être exploité pour les compagnies chiliennes. Bien sûr que ce n'était pas facile parce que tout le matériel qu'il y avait, c'était étranger. Le capin, comment s'appelait la. Bon, des grandes machines, que c'est vrai que Chili jamais c'est un pays industrialisé, jamais c'est un pays qui peut fabriquer des pièces pour réparer ces machines. Et ça, c'était bien sûr un problème, un des problèmes principaux après, qui manquait les pièces d'échange. Pour dire des choses comme ça.
Pero el pueblo de Chile y el gobierno popular que presido han medido claramente la responsabilidad de la medida que es indispensable tomar para fortalecer la economía de Chile, para romper su dependencia económica, para completar la esperanza y el anhelo de los que nos dieron la libertad política, para conquistar nuestra segunda independencia, la independencia económica de nuestra patria.
Ricardo Parvex, militant du MIR, le mouvement de la gauche révolutionnaire au Chili. Nationalisation du cuivre, mise en place de la réforme agraire permettant l'accès à la terre à de nombreux paysans, nationalisation de secteurs clés de l'industrie, les premiers mois après son élection, le gouvernement de l'unité populaire met très vite en place son programme pour l'intérêt commun, se heurtant du coup de plus en plus à la bourgeoisie chilienne, aux momios poussés par les États-Unis. Une unité populaire qui trace une voie originale et attrayante vers le socialisme.